Maison du Podcast présente.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wild, le podcast animalier, est une série audio du magazine Pirouette, un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment, comme toi, grandir et apprendre avec le sourire. Salut nos petits aventuriers et bienvenue dans Wild, le podcast animalier.
Un podcast pour partir à la découverte de tous les animaux à travers le monde.
Un reportage avec un animal étonnant et un guide qui nous emmènera sur ses traces. Tu es prêt ? Attention, c'est parti ! Professeur, mais pourquoi vous êtes accroché à la falaise ?
Je grimpe, ma grande, pour aller voir mes copains.
Vous avez des copains qui habitent dans ce tas de pierres ?
Bah oui, évidemment, mes copains mouflons. Elle, j'y suis presque.
Quelle souplesse, professeur.
J'ai l'impression que tu te moques de moi.
Pas du tout, professeur, je suis très admirative, mais quand même, ça semble un peu risqué, votre grimpette, là.
Risqué ? Mais enfin, tu dis vraiment n'importe quoi ?
Professeur, vous allez bien ?
Oui, oui, ça va. Cette vieille branche a amorti ma chute. C'est embêtant car j'ai rendez-vous avec Jérémy là-haut pour aller voir les mouflons et je ne serai jamais à l'heure.
Eh bien, je peux y aller, moi. En attendant, vous restez là bien sagement. Je viendrai vous récupérer quand on aura fini le reportage.
Quoi, ici ?
Mais oui, professeur, je suis sûre que vous allez trouver de quoi vous occuper. Soyez sage et prenez garde aux aigles, qu'ils ne vous prennent pas pour un asticot.
Moi, un asticot ? Nom d'une limace gluante.
Jérémy, aujourd'hui, tu es notre guide pour aller à la découverte d'une super espèce, les mouflons. Jérémy, c'est quoi toi ton métier ?
Alors moi, je suis biologiste de la faune sauvage et j'encadre des séjours avec une association qui s'appelle Objectif Science International où on va faire des séjours naturalistes, où on va étudier la faune et la flore et c'est pour ça qu'on est là à la recherche du mouflon.
Est-ce que tu peux nous le décrire ? C'est vrai qu'il est super beau ce mouflon.
Donc c'est un animal qui va être la taille d'un mouton, vraiment il faut imaginer, mais au lieu d'avoir une grosse laine sur lui, il va avoir un pelage vraiment roussâtre, sauf les pattes qui seront toutes blanches et l'arrière-train qui sera blanc, qui va contraster avec une petite queue foncée. Le mâle aura donc les grandes cornes de bélier enroulées, classiques comme un mouton. Et il va être entre 70 et 80 cm de hauteur au garrot. C'est ce qu'on appelle un ongulé de taille moyenne. Voilà, on n'est pas sur un élan, on n'est pas sur un cerf. On est plutôt sur la taille du chamois, à peu près. Et voilà, la hauteur d'un mouton, un petit peu plus haut sur pattes, comme c'est moins gras et que c'est plus un animal domestique. Et la femelle, elle, va être vraiment totalement roussâtre, avec les pattes blanches, alors que le mâle aura des selles blanches sur le côté, comme on disait, deux taches blanches sur chaque flanc, qui se voient assez bien, même à distance, et qui permet de l'identifier assez facilement.
Et la femelle n'a pas de cornes ?
C'est ça, contrairement au bouquetin et au chamois, donc, qui sont des caprinés, plutôt de la famille de la chèvre. où les femelles ont aussi des cornes, différentes de celles des mâles qui permettent parfois de les identifier. Le mouflon, lui, la femelle n'a pas de cornes comme la brebis de notre mouton domestique.
Ok, c'est un animal pas facile à voir, hein. Il faut avoir un peu de chance et il faut avoir des bonnes chaussures de rando.
Oui, comme la plupart des ongulés de montagne, bouquetins et chamois, il faut un petit peu grimper pour aller les voir et donc ça prend forcément un petit peu d'équipement, de l'eau, une casquette, une veste et des bonnes chaussures et une paire de jumelles.
Et une bonne paire de jumelles pour aller les observer. Allez, c'est parti.
Donc là, vous pouvez voir qu'ils sont, y en a un qui est tout seul et puis il y a un autre groupe avec quelques individus. C'est des groupes mixtes en ce moment. Il y a un groupe là où il y a à la fois des femelles et des mâles, parce qu'on est au début du rut, et donc du coup les groupes commencent à se mélanger. Vous avez vu qu'ils sont quand même assez tranquilles, hein. Ils se promènent dans les pierriers. Comme la plupart des ongulés, ils vont venir lécher les cailloux à la recherche de sels minéraux. Il faut savoir aussi que c'est des animaux qui boivent très très peu, puisqu'en fait ils vont se contenter de la rosée, en général, qu'ils vont trouver sur les plantes qu'ils mangent le matin. Et ça ne leur empêche pas que s'il y a une flaque d'eau et qu'il fait très sec, ils vont y aller, bien sûr. Mais ils vont plutôt éviter de boire réellement et plutôt se contenter de la rosée. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se lever tôt pour venir les voir, puisqu'ils vont être actifs dans ces moments-là. Les mouflons, comme le bouquetin et le chamois, c'est des ruminants. Du coup, ils vont avoir des cycles où ils vont nourrir. Après, ils vont se poser, ils vont ruminer. Et après, ils vont recommencer. C'est des animaux diurnes qui ne vont pas hésiter à être plutôt actifs tôt le matin et tard le soir vis-à-vis de nous, nos activités. Et je ne sais pas si vous entendez, il y a les cloches des vaches. On voit les vaches un peu partout et les moutons. Ce qui fait qu'ils sont quand même en compétition avec les animaux domestiques. C'est pour ça qu'en général, ils vont éviter de se mélanger avec les troupeaux. Et par contre, il y a une pression mutuelle sur la ressource en herbe. Là, essayez de distinguer le nombre d'individus. Si vous arrivez à distinguer les mâles des femelles, contrairement aux bouquetins et aux chamois, les femelles ne portent pas de cornes. Du coup, normalement, ça devrait être assez facile à distinguer. Mais vraiment, la plus grande caractéristique, c'est les pattes blanches. C'est le seul des trois espèces d'ongulés de montagne, là, c'est la seule qui a les pattes blanches. Et puis, il faut aussi se rappeler que donc ça, c'est une espèce introduite, au début du 19e jusqu'aux années 70. Et donc, ces populations sont assez localisées dans les massifs où il a été réintroduit. Ça a été introduit pour la chasse. Et il s'y est plus chez nous, donc il est pas mal resté. Contrairement au chamois qui a un filet au niveau de sa pince, vous savez, la petite membrane qui lui permet de pas trop s'enfoncer dans la neige, le mouflon n'en a pas. Et c'est un animal issu des moutons qui sont retournés à l'état sauvage en Corse et en Sardaigne. Donc c'est pas du tout un animal qui est à l'aise dans la neige. Et donc quand il y a des hivers très rudes, avec beaucoup de froid, une couche de neige très solide, sa population peut chuter assez drastiquement. Et dans les Alpes du Sud, où le loup est revenu en premier, la même chose, comme c'est un animal qui n'est vraiment pas trop adapté à trouver refuge sur les verticalités comme le bouquetin ou le chamois, il a payé un lourd tribut aussi au retour du loup. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est une espèce qui n'est pas du tout adaptée à cet environnement au départ, s'il n'était pas réintroduit par l'homme. Et c'est super beau comme animal. Avec les couleurs, là, je pense que c'est quand même un des plus beaux représentants qu'on a dans nos montagnes.
Là, on le voit vraiment à découvert. C'est normal, il préfère être dans les plaines que dans les forêts.
C'est un animal qui va préférer les milieux ouverts, ouais, parce qu'il se nourrit surtout d'herbacées. Et en général, dans les zones forestières, on va trouver moins de plantes herbacées, puisque c'est couvert d'arbres. Et aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est issu du mouton, c'est un animal grégaire qui aime bien être en troupeau. Et donc, il aura tendance à plutôt être sur les zones découvertes, qui lui permet aussi de venir voir ses prédateurs de loin. Et là, en ce moment, ils sont sur les rochers. Et dès qu'il va faire chaud, je ne sais pas si vous voyez dans les ravins, aux lunettes ou aux jumelles, vous allez voir, il y a des sortes de, pas de grottes, mais de surplombs qui font de l'ombre à partir de midi, là, quand le soleil sera bien haut. Vous verrez, ça va faire des grosses zones d'ombre. Et là, ils vont se réfugier ici pour être à l'ombre, pour se cacher un petit peu du soleil. Et dès que la course du soleil va continuer, ils vont ressortir un petit peu plus tard dans la journée où il fera plus frais. Parce qu'ils sont comme nous, quand il fait très très chaud, ils ralentissent un peu, quoi.
Est-ce qu'il a des prédateurs ?
Oui, comme je le disais, le mouflon peut être prédaté notamment par le loup. L'aigle royal, comme tous les ongulés, peut prédater les jeunes. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus... c'est surtout des rumeurs, ça arrive régulièrement. Mais c'est pas du tout quelque chose qui affecte les populations. C'est ponctuel, on va dire, comme prédation. Le renard peut être un prédateur des jeunes.
Parce que c'est gros un mouflon quand même, ça pèse combien ?
Mais je parle justement des jeunes. Ouais. Et un mâle de mouflon peut atteindre les 50 kilos. La femelle, ça sera entre 30 et 40. Et du coup, un petit de quelques semaines, ça va être quelques kilos. Mais globalement, une fois qu'il est adulte, à part le loup, ça va être difficile d'avoir un prédateur. Le lynx, dans les régions où les deux sont présents, peut être un prédateur. Et bien sûr, nous, l'homme, puisque si le mouflon est là, c'est pour la chasse. Et il est encore chassé sur toute son aire de répartition chez nous, de septembre à février.
Alors, le mouflon mâle, il a des très grosses cornes, vraiment impressionnantes. Et on peut savoir son âge grâce à ses cornes, en fait.
Alors, c'est pas facile à distance, puisqu'en fait, ça va être des anneaux d'âge qui sont juste des renfoncements un petit peu plus marqués que les anneaux de parure. Vous savez, ces cercles qui entourent les cornes des différents animaux. Et donc, ces anneaux d'âge sont visibles seulement si on a la corne en main, vraiment à proximité. Et en général, les premières années, ça va faire des croissances assez longues. Et à partir de 7-8 ans, les anneaux de croissance seront beaucoup plus resserrés. Et en effet, ça permet de compter l'âge de l'animal. Mais sur le terrain, c'est très très difficile à distinguer.
Mais bon, c'est quand même un indice. C'est comme si nous, nos cheveux, à la fin de l'année, on savait, à la fin de notre vie, on savait combien on avait parce qu'ils ont poussé toute notre vie, quoi.
C'est un peu ça. C'est de la kératine. En plus, c'est la même matière que les cheveux. Et il faut savoir que contrairement au bois du chevreuil ou du cerf, les bouquetins, les mouflons et les chamois, ce sont des cornes. C'est-à-dire que ça pousse en continu, ça ne tombe jamais. Et c'est basé sur une cheville osseuse qui est collée au crâne, vraiment. Tandis que les bois des cervidés, donc chevreuil et cerf chez nous, vont tomber tous les ans et repoussent de A à Z tous les ans.
Alors, ils vivent tous ensemble, hein, ceux qu'on a vus là, ils sont 3-4 à côté les uns des autres, ça fonctionne en troupeau ?
Alors c'est des animaux grégaires, hein, comme nos moutons domestiques. C'est juste que là on est à l'automne, donc il y a le rut, la période de reproduction qui va commencer, les mâles vont se battre pour avoir le droit de se reproduire avec les femelles, et donc les troupeaux commencent à se mélanger. Le reste du temps, en général, pendant la belle saison, après les naissances qui ont lieu entre avril et mai, les femelles vont rester avec les petits, et les mâles vont plutôt former des groupes séparés, assez lâches, pas forcément ultra structurés. Il n'y a pas une hiérarchie fixe, etc., avec un meneur et tout ça. Mais par contre, ils vont rester ensemble, ça pour plusieurs implications. La protection déjà, plus il y a d'yeux, plus on détecte les prédateurs. Et puis, ça évite de rendre compliqué le fait de trouver un partenaire. Donc même les troupeaux de mâles ne vont jamais s'éloigner à des centaines de kilomètres des troupeaux de femelles. C'est pour ça que quand on regarde les cartes de répartition, ils ont tendance à être sur des zones assez localisées et pas se déplacer beaucoup. Comme la plupart des animaux de cette taille, hein, faut pas oublier, ce sont plutôt des fainéants, des animaux proies, qui vont rester, si jamais on les dérange pas, qui peuvent être assez cantonniers. Et évidemment, il y a forcément des individus, comme chez nous, avec une individualité, un caractère différent, qui vont avoir le goût de l'aventure et partir un petit peu plus, ce qui participe au brassage génétique.
Une petite astuce, dernière question pour les auditeurs qui nous écoutent. Pour observer les mouflons, tu disais, le mieux, c'est pas de s'approcher le plus possible, finalement.
Non, exactement, puisque quand on est proche du terrain, on va avoir tendance à avoir une vision qui est assez limitée en termes de distance, tandis que comme ici, là, on est vraiment à 1 km du versant d'en face, ce qui nous permet de scanner aux jumelles, c'est le terme, hein, l'intégralité du versant d'en face, et c'est comme ça qu'on les a trouvés. Le mieux, de toute façon, pour observer la nature, avant tout, c'est les jumelles, et puis après, pour les ongulés sauvages, la lunette d'observation, la longue vue est vraiment intéressante, parce que justement, ça permet de rester loin, et d'avoir une observation qui est très, très qualitative, sans les déranger.
Ah oui, t'as une petite astuce aussi pour les jumelles, hein. Ça c'est très bien, parce que nous on a tendance à regarder de haut en bas, et du coup ça donne mal au cœur.
Mais comme en Occident on lit de gauche à droite, notre cerveau est vraiment habitué à faire ça, donc je vous conseille vraiment de scanner le terrain de gauche à droite, plutôt que de haut en bas, ça vous donnera moins de mal de mer.
Ouais, donc on regarde une ligne fixe de gauche à droite, surtout le versant d'en face, et là on trouve des choses.
Et là on peut réussir à trouver des choses. Pas hésiter à faire ligne de crête, puisque c'est beaucoup plus facile à détecter les animaux en ligne de crête, puisqu'ils seront en contraste avec le ciel derrière.
Merci beaucoup, Jérémy. Mince, mais où est-il passé? J'espère qu'il n'est pas tombé en bas de la falaise. Professeur! Professeur! Tout va bien?
Oui, je suis là, pas de panique.
Où ça, là? Vous êtes tombé?
Pas du tout, lève la tête.
Mais comment vous faites pour marcher sur la paroi de la falaise?
Ce sont mes petites chaussures, une super invention, hyper adhérente. J'ai fabriqué la même matière qu'il y a sur la langue des caméléons et qui fait que leur langue colle, et je l'ai collée sous mes chaussures.
C'était la question d'un de nos auditeurs dans un ancien épisode.
Malin, n'est-ce pas? Allez, hop, je grimpe aussi vite qu'un chamois.
Bon, ça tombe bien, professeur, ne bougez plus, j'enclenche le répondeur des auditeurs.
Ah bon? Maintenant?
Oui, ça me paraît le moment idéal. Attention, c'est parti.
Bonjour, je m'appelle Mani, j'ai 10 ans et j'ai cette question à vous poser. Comment les animaux font pour ne pas avoir de caries alors qu'ils ne se brossent pas les dents? Au revoir, Ambre et Docteur Sapiens.
Ah, les caries! Excellente question, mon petit Mani. Tu as raison, quand on en a, c'est vraiment pas rigolo.
Vous avez des caries, vous, professeur?
C'est-à-dire, avec ma passion pour les marshmallows grillés, j'avoue qu'il m'est arrivé d'en avoir, oui. Et c'est bien ça le problème. Pourquoi les animaux n'ont pas de caries? Eh bien, nom d'un petit mouflon, c'est parce qu'ils ne mangent pas de bonbons. Pas de sucettes, pas de réglisse, pas de marshmallows. La vie doit être tellement triste. Sans petite douceur.
Mais alors, les animaux sauvages n'ont jamais de caries?
Quasiment jamais. Les caries arrivent à cause des bactéries qui viennent manger le sucre. Sucre qui est déposé sur nos dents. En mangeant ce sucre, elles dégagent de l'acide qui attaque notre émail. Seuls les chiens ou les chats à qui on donne des petites friandises sucrées ou le reste de nos repas peuvent en avoir.
Ça alors, professeur, c'était une sacrée bonne question.
Merci, Mani. Allez, moi, je retourne escalader ma falaise avec mes petites chaussures.
Vous pensez que je dois lui dire que ça sert à rien de monter en haut de la falaise pour voir les mouflons, parce que Jérémy nous a expliqué qu'on voyait beaucoup mieux de la vallée en face? Ah, pauvre professeur, tout ça pour rien. Enfin, je crois quand même qu'il s'amuse beaucoup avec ses petites chaussures à ventouses.
Et hop. Et hop. Et hop.
Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux Wild Podcast Animalier et sur Facebook et sur Instagram.
Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fleuruspresse.com.